Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Éric.
Alors, comment vas-tu depuis la dernière émission ?
Écoute, je vais bien. Je me remets un peu d'une soirée festive hier soir, tout en respectant les règles de distanciation sociale, m'empressais-je de préciser. Mais ça va. Et toi, Éric ?
Écoute, très bien. Moi, j'ai pas fait la fête encore, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Bah, écoute, tu me vois ravi quand même de cette nouvelle. Et effectivement, rappelons qu'il est essentiel de maintenir les gestes barrières en cette période d'incertitude, puisque au moment où nous enregistrons, nous ne savons pas encore quels seront les effets du déconfinement sur le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital, puisque en tenant compte du temps d'incubation de la maladie, eh bien, nous ne saurons véritablement à quoi nous en tenir que d'ici une ou deux semaines encore. Et donc, durant cette période, il faut absolument rester prudent. Renaud, la semaine dernière, nous étions restés sur un suspense absolument insoutenable, puisque après avoir parlé de la dette de l'État pendant trois émissions, tu nous as parlé d'une solution qui semblait être une opportunité pour l'avenir de l'économie, qui pourrait être mise en place par les banques centrales, et il s'agit de la monnaie hélicoptère. Alors, comme je n'avais jamais entendu parler de la monnaie hélicoptère, j'ai grand hâte de savoir de quoi il s'agit maintenant.
Alors en fait, la monnaie hélicoptère, c'est une expression qui est née dans les années 60 sous la bouche d'un prix Nobel, d'un futur prix Nobel d'économie, l'un des plus grands, enfin en tout cas considéré comme l'un des plus grands économistes du XXe siècle, Milton Friedman. Et alors c'est un peu comme l'expression Bing Bang, c'est-à-dire qu'en fait, en utilisant cette expression, Milton Friedman était totalement opposé à ce qu'il a appelé la monnaie hélicoptère. C'est-à-dire que c'est lui le père de l'expression et le père du concept, mais c'était pour mieux le rejeter. Et c'était un peu comme, tu le sais sans doute, Eric, le Big Bang, à savoir que celui qui a inventé le terme de Big Bang, c'est un physicien qui s'appelle Fred Hoyle et qui était un farouche partisan de l'univers stationnaire, c'est-à-dire qu'il pensait que l'univers avait toujours eu cette forme-là, et c'était pour se moquer de ceux qui pensaient qu'il y avait eu une origine à l'univers qu'il avait appelé ça de manière ironique le Big Bang.
Oui, d'accord, je vois tout à fait ce que tu veux dire, Renaud. C'est une image qui parle d'elle-même. Est-ce qu'il s'agirait, comme dans la saison 3 de La Casa de Papel, d'une monnaie qui tombe miraculeusement d'un hélicoptère sur la foule ?
Eh bien, c'est cette métaphore, exactement. Milton Friedman expliquait qu'une manière de relancer l'économie pourrait être de faire, alors l'expression en fait est assez malheureuse, mais elle est tombée dans le langage courant, donc je vais la réutiliser, puis je vais expliquer la limite juste après, c'est de faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire de créer massivement de la monnaie que l'on aurait pu, je cite l'image de Friedman, distribuer par hélicoptère en jetant des billets dans la foule, et donc on aurait augmenté la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, cette monnaie aurait été dépensée, et finalement grâce à ça, l'activité économique peut repartir à la hausse, d'où le terme de monnaie hélicoptère.
D'accord, mais ça, si je comprends bien, il faut que ça vienne des banques centrales, parce que les États, par exemple, ne sont absolument pas autorisés, dans le cadre des accords européens notamment, à faire fonctionner la planche à billets pour éviter d'augmenter l'inflation.
Alors, de toute façon, l'organisme qui a la possibilité de créer de la monnaie, ce ne sont pas les États, mais même dans le monde entier, ce sont les banques centrales. Alors, si les banques centrales sont propriétés des États, effectivement, indirectement, les États peuvent faire créer de la monnaie par la banque centrale. Mais en Europe, tu as raison, depuis 92 et le traité de Maastricht, les banques centrales sont indépendantes des pouvoirs politiques, la BCE est totalement indépendante des États, et dans ce cadre-là, les États ne peuvent pas lui ordonner de créer de la monnaie. Et alors juste une précision importante, ce que je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi l'expression planche à billets, c'est une expression qui est plutôt à éviter, c'est qu'en fait la quantité de monnaie qui circule dans l'économie est très très peu sous forme de pièces et de billets. L'immense majorité de la monnaie qui circule,
elle est sous forme
d'écriture, voilà, monnaie scripturale, exactement, elle est sous forme d'écriture sur les... Donc dire qu'on fait tourner la planche à billets, ça n'a pas beaucoup de sens. Quand on crée de la monnaie, simplement, on crédite des comptes bancaires.
D'accord. Alors, j'aimerais prendre dans l'actualité récente un événement qui s'est produit, de façon à illustrer un petit peu ton propos. Alors, je crois que savoir que ça rentre pas tout à fait dans le cadre de la définition que tu viens de donner, mais peut-être que tu pourras nous expliquer, après qu'on ait entendu l'extrait sonore que je tiens à ta disposition, pourquoi ça n'est pas de la monnaie hélicoptère.
Alors que l'économie mondiale est à l'arrêt, le président Donald Trump a présenté un programme d'aide financière aux foyers américains qui pourrait valoir 1 000 milliards de dollars. L'argent sera envoyé directement aux familles pour améliorer leurs finances. Nous envisageons d'envoyer des chèques aux Américains immédiatement. Les travailleurs nous disent que de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Les Américains ont besoin de liquidités maintenant. Et le président veut en avoir maintenant. Et maintenant, cela signifie dans les deux prochaines semaines. Cette décision, combinée à un ensemble de réductions d'impôts, a été saluée à Wall Street, où les actions ont affiché une reprise modérée après des jours de baisse.
Voilà, alors on l'a bien compris, l'idée dans cet extrait, c'est de refinancer les foyers américains de façon à ce que l'économie ne tombe pas en panne, tout au moins la demande ne tombe pas en panne. L'offre, c'est une autre histoire, mais donc c'est bien ça, hein, Renaud, étant donné que la population américaine ne bénéficie pas des mêmes aides sociales que dans d'autres pays comme la France, se paupérise, eh bien on refinance leur capacité à consommer.
Exactement, alors ce n'est pas... de la monnaie hélicoptère au sens strict du terme, puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas un euro de création monétaire. Simplement, cette aide serait financée par l'État américain qui emprunterait ensuite sur les marchés financiers pour financer le déficit qu'il s'est créé. Donc, en tant que tel, la quantité de monnaie en circulation resterait identique. Mais la logique est la même. La logique consiste à dire il faut à tout prix soutenir la demande et comme eux n'ont pas notre système de chômage partiel, je te dirais presque finalement en faisant ça, les Américains font ce que nous faisons déjà depuis 2 mois via l'accroissement de nos déficits publics liés à des mesures de soutien à l'économie.
D'accord. Donc si on revient sur le concept de monnaie hélicoptère, ce qui crée la différence avec ce qu'on vient de montrer dans cet exemple, c'est qu'il y a création monétaire. Alors, certains sont farouchement opposé à cette solution parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le risque, c'est le retour de l'inflation. Mais tu nous disais en fin d'émission dernière que ce risque était pour le moment assez modéré.
Alors, il est modéré pour 2 grandes raisons. La première est que en 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, à la suite de ça, justement, pour ne pas reproduire l'erreur de 1929, les banques centrales ont très, très, très massivement créé de la monnaie. En tout cas, ont encouragé très, très fortement les banques à en créer, puisque fondamentalement, dans l'économie, ce sont les banques qui créent de la monnaie par l'intermédiaire des crédits bancaires. Et donc, elles ont, comme on dit, arrosé de liquidités les marchés bancaires et les marchés financiers. Et effectivement, ça a eu un impact positif sur l'activité, puisque s'il y a une grande récession mondiale en 2009, malgré tout bien inférieure à celle de cette année, la récession mondiale en 2009 avoisine les 4%. Le monde entier perd 4% de PIB. Là, a priori, on sera plus sur une fourchette de 8 à 10%, voire plus. Mais donc, dès 2010, la croissance repart, faiblement, mais elle repart. Donc, on a une seule année de récession. Donc, c'est plutôt un succès. C'est-à-dire que, manifestement, les remèdes mis en place ont permis d'atteindre les objectifs visés. Pour autant, l'inflation n'est pas repartie comme on aurait pu le craindre. Et là, c'est tout un pan de la théorie économique qui a été questionné parce que c'était devenu une sorte d'évidence depuis les années 70 que dès qu'il y avait création monétaire, il y avait inflation. C'est ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie pour ceux qui sont un peu spécialistes en économie. Et c'est faux. C'est faux. Et c'est faux pour 2 grandes raisons. La première, c'est parce que l'impact sur la relance économique a été moins fort que prévu parce qu'une grande partie de ces liquidités ne sont pas retrouvées dans les mains des agents économiques lambda. Ils se sont retrouvés sur les marchés financiers pour faire de la spéculation. Donc, à la fois, ça a fait que la relance n'a pas été aussi forte que prévu, mais ça a aussi fait que l'impact inflationniste a été beaucoup plus faible, puisque la demande n'a pas augmenté dans les proportions attendues. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a aussi la mondialisation qui, comme à la fois effet positif et effet pervers, on peut le dire aussi, a comme conséquence la baisse des prix, puisque quand vous importez un t-shirt qui est fait en Chine, il coûte forcément beaucoup moins cher que le même t-shirt qui est fait en France. Alors il y a pas de critique qu'on peut apporter là-dessus, mais ça a eu tendance à limiter l'inflation.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'avais présent à l'esprit que l'inflation, c'était un phénomène mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accroissait la quantité de liquidité sur les marchés, sa correspondance avec la quantité d'or dans les banques était recalculée, ce qui fait que la monnaie, finalement, quand on inonde le marché de monnaie, la monnaie en elle-même vaut moins. C'est un petit peu ce qui s'était passé en Allemagne après la crise de 1929. Et ce qui pourrait expliquer donc la hausse des prix, l'augmentation des prix visant à rétablir la parité de la monnaie avec son équivalent en or.
Voilà. Alors, comme tu le dis bien, peut-être en 29 en Allemagne, parce qu'à l'époque, on était dans le système de l'étalon or, mais nous avons quitté le système de l'étalon or en 1944 avec les accords de Bretton Woods. Donc, en fait, aujourd'hui, la quantité d'or n'a plus aucune importance et plus aucun impact sur la valeur de la monnaie ni sur le niveau des prix. Donc, c'est pour ça que les mécanismes ne sont pas les mêmes.
Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui prévaut aujourd'hui, c'est l'offre et la demande, en fait.
Exactement. Pourquoi l'accroissement de la quantité de monnaie en circulation devrait-elle se traduire par de l'inflation ? Simplement parce que cette monnaie supplémentaire qui a été distribuée aux agents économiques...
Génère une demande plus importante
et jeu de l'offre et la demande. Quand la demande augmente, au moins à court terme, les prix augmentent. Après, il est possible que les carnets de commandes des entreprises étant pleins, elles en profitent pour investir et pour relancer leur production, donc pour augmenter l'offre, ce qui va permettre de rééquilibrer le niveau des prix. Mais au moins à court terme, ça doit engendrer de l'inflation. C'est ça le mécanisme qui relie quantité de monnaie en circulation et inflation. Or, si cette monnaie qui a été créée, elle ne se retrouve pas dans la demande exprimée sur le marché des biens et des services, mais qu'elle se retrouve sur de la spéculation réalisée sur les marchés financiers, il n'y a pas d'inflation dans le domaine réel. Par contre, il y a une bulle financière qui se crée, ce qui est une forme d'inflation, mais pas au sens où on l'entend habituellement.
Oui, mais alors du coup, la monnaie hélicoptère ne remplit pas du tout sa mission, qui est normalement de relancer la demande. C'est bien l'objectif initial quand même, quand on inonde les ménages américains de liquidité, c'est pour relancer la consommation. Si ça se retrouve immédiatement sur les marchés financiers, là, on est complètement à côté de la plaque.
Eh bien, justement, c'est pour ça qu'on reparle de monnaie hélicoptère. C'est parce que ce que l'on a mis en place en 2009-2010, ce n'est pas de la monnaie hélicoptère. À l'époque, la Banque centrale crée de la monnaie, mais cette monnaie, elle est destinée aux banques pour leur permettre d'émettre plus de crédits. Or, on s'aperçoit qu'en fait, le nombre de crédits a bien augmenté et ça a bien eu un impact pour éviter la récession, mais cet accroissement des crédits n'a pas du tout été à la hauteur de ce que l'on attendait du fait de la spéculation. Donc, pour contourner ça, il y a un moyen qui est que les banques centrales, plutôt que de refinancer les banques avec l'espoir qu'ensuite les banques émettent des crédits qui ensuite se transformeront en demande, on voit que là le lien est très indirect, eh bien on peut imaginer, et c'est ça la monnaie hélicoptère, que les banques créditent directement les comptes des agents économiques. Alors là, dans l'exemple de Trump, c'est l'État qui crédite directement les comptes, c'est pas de la monnaie hélicoptère exactement, mais là on pourrait imaginer que la BCE, que demain, tu te lèves, tu regardes ton compte bancaire et tu t'aperçois que tu as une ligne de crédit, 1000 euros, origine BCE. Et là, dans ces conditions, effectivement, surtout si on donne majoritairement cette aide aux plus démunis, enfin en tout cas aux ménages qui n'ont pas les revenus les plus élevés, là, ça va se transformer en consommation, forcément.
Bien sûr. Alors, par contre, ça pose une autre question qui est plus d'ordre éthique, celle-là, qui est celle, en fait, de la recherche permanente de la croissance, puisque finalement, l'économie, c'est de la croissance. Et donc là, on peut aussi s'imaginer que les partisans d'une forme de décroissance sous-tendue par des objectifs environnementaux puissent dire que c'est vraiment, encore une fois, pousser le système à son paroxysme et revenir finalement à tout ce qui a conduit aux grandes catastrophes économiques de ces dernières années.
Exactement, mais tout ce dont nous parlons depuis le début de cette série d'émissions, pour l'instant, parce que je te rappelle que nous allons aussi faire quelques émissions sur l'alternative, l'utopie.
Absolument, et beaucoup de questions vont se poser à ce moment-là.
Et voilà, et ça va arriver après. Mais jusqu'à présent, Toutes les solutions dont je vous parle sont les solutions qui consistent à rester dans le monde d'avant. C'est-à-dire qui consiste à dire, on était dans une phase de croissance, d'un seul coup, il y a une récession économique qui nous a appauvris, et bien on va repartir de l'avant pour retrouver la dynamique de croissance qui était celle qui précédait. Alors, cela est éminemment critiquable sur bien des points, aussi bien écologiques que philosophiques, nous en reparlerons, mais dans ce cadre-là, disons que ce type de solutions sont des solutions cohérentes et a priori efficaces pour relancer l'activité économique.
D'accord, alors Renaud, j'ai une dernière question. Même si je connais en grande partie la réponse, je pense qu'il serait intéressant de la poser pour nos auditeurs. Pourquoi, au lieu d'imaginer des solutions telles que la monnaie hélicoptère, est-ce qu'on ne revaloriserait pas plutôt les salaires pour relancer la consommation ?
Voilà une bonne question, Eric. Surtout que cette question, en fait, nous en avons déjà parlé. Enfin, c'est toi qui m'en as déjà parlé. Et je t'ai dit que nous allions faire une émission entière, donc pourquoi pas la semaine prochaine. Parce qu'effectivement, lorsque on entend Emmanuel Macron nous dire dans une allocution télévisée solennelle qu'il a tiré les leçons de cette crise, que rien ne sera plus jamais comme avant, et qu'il ajoute qu'il serait préférable que dorénavant les rémunérations soient fondées sur l'utilité sociale des individus et non sur les règles de marché telles qu'elles existent, eh bien ça, effectivement, ça nous interroge fortement et ça nous pose la question du, pour sortir de cette crise, entre autres, est-ce qu'une redéfinition de la manière dont on distribue les rémunérations ne serait pas plus fondamentale et plus efficace qu'une simple prime de 500 euros donnée à certaines infirmières ou qu'une simple prime de 1000 euros proposée par la Banque Centrale Européenne ou par l'État américain aux ménages.
Et ce d'autant que ça n'entraînerait pas le risque inflationniste dont on parle depuis le début de cette émission.
Ah ben, si tu fais de la redistribution à masse monétaire constante, a priori, le risque inflationniste est quasiment nul.
Tu viens de prononcer un gros mot, Renaud, redistribution. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup souffert en termes de concept ces dernières années, n'est-ce pas ?
Exactement. Et ce que je te propose, Eric, dans ces conditions, c'est que nous en parlions lors de la prochaine émission. Nous présenterons les grandes tendances au retour des inégalités depuis une bonne vingtaine d'années, une bonne trentaine d'années. Nous vivons dans un monde de retour des inégalités. Je signale juste à ce sujet pour les auditeurs qui seraient intéressés, il y a un livre passionnant qui est sorti il y a 3 mois de cela, de Gabriel Zucman et Emmanuel Seize, qui s'appelle « Le triomphe de l'injustice fiscale ». Mmh. C'est une étude sur le système fiscal aux États-Unis. Et alors, bon, toute ressemblance avec des pays européens serait sans doute pas exactement fortuite dans les grandes évolutions que l'on y voit. Et c'est très confondant. Et nous en reparlerons lors de la
très
prochaine
bien.
Émission.
Dans le même ordre d'idée, bon, il y a un ouvrage qui est maintenant un peu ancien, mais qui est devenu quasiment la Bible dans ce domaine, c'est « Le capital au XXIe siècle » de Thomas Piketty.
Bien évidemment, je signale que Emmanuel Seize, qui est le co-auteur du livre dont je viens de parler, est l'un des auteurs qui tourne
des étudiants de qui avaient contribué à l'écriture du Capital, oui. Parce voilà, que c'est une œuvre collective,
et,
hein,
le Capital au XXIe siècle. Et le Capital au XXIe siècle, oui, là. Alors, sauf qu'il fait 1000 pages, donc effectivement, faut un petit peu plus d'efforts pour rentrer dedans que dans le livre de Zucman et Seize, qui est plus court et très facile d'accès. Mais effectivement, le Capital au XXIe siècle, disons que tout homme qui aujourd'hui souhaite être un citoyen éclairé du XXIe siècle se doit de lire Le Capital au XXIe siècle, et je le dis en toute objectivité.
Très bien, et bien voilà donc un travail à faire à la maison, hein, un télétravail pour nos auditeurs, lire Le Capital au XXIe siècle pour la semaine prochaine. Renaud, je te remercie et je te dis donc à la prochaine fois.
À la prochaine fois, Eric, au revoir.
Au revoir. Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.